Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Les bonnes choses qui se font aussi belles ce midi pour mettre en valeur le lien étroit qui unit le contenant et le contenu de nos assiettes, les produits de bouche n'allant pas sans les arts de la table aussi résistants que la cuisine est fugace. Il arrive en effet que vous soyez chez vous ou au restaurant, que saussant une assiette vidée de son délicieux plat, en somme après vous être régalé, vous tombiez sur la belle œuvre d'un artisan, faite de terre cuite, de faïence, de bois ou de toute autre matière qui a sublimé préalablement votre palais. Il arrive également que l'on vous serve un plat mijoté dans une splendide cocotte et que vous remarquiez à quel point l'alliance du beau et du bon est une merveille des sens. Où l'on va voir que la faïence, longtemps synonyme de haute gastronomie, est dépassée aujourd'hui par ce qu'on pourrait appeler le grès, la céramique brute. On verra si mes termes sont justes avec nos invités. Et puis que choisir des assiettes justement en grès, des coupelles en porcelaine ou des pichets en faïence n'a rien d'anodin, contrairement aux apparences. Trois invités sont autour de la table et je suis très heureuse de les accueillir. Bénédicte Bortoli, bonjour.
Bonjour.
D'une certaine façon, c'est vous qui nous avez donné l'envie de faire cette émission puisque vous avez écrit un livre qui s'intitule « Céramique, le beau, le rare et l'utile » aux éditions EPA. Un livre qui, à travers 20 portraits de céramistes, plonge au cœur de la relation entre une cuisinière et une potier-potière. Alexandre Gauthier, qui s'est déplacé exprès pour venir nous voir aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Chef doublement étoilé de la Grenouillère à la Madeleine sous Montreuil dans le Pas-de-Calais, propriétaire de 4 autres restaurants dans la région, le dernier né étant sur mer, à Merlimont sur la côte d'Opale. Juste un mot, Alexandre Gauthier, parce que on a suivi vos déboires. Vous avez été submergé par les eaux plusieurs fois cet hiver. Comment allez-vous? Comment va la Grenouillère?
Elle est convalescente et voilà, c'est un moment un peu particulier, pour pas dire compliqué, mais voilà, il faut être patient, il faut que le printemps pousse l'hiver, il est temps, et puis que tout sèche et qu'on puisse reconstruire sereinement pour être prêt fin printemps.
Pas un printemps, on vous suivra de Merci. Près. Merci beaucoup d'être venu ici dans Les Bonnes Choses en direct ce midi. Et puis Justine Pruvot est avec nous, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef au restaurant Le Mercato en ce moment et fondatrice d'une maison dédiée aux arts de la table, une maison un peu particulière, vous allez nous l'expliquer, elle s'appelle Touillet. Touillet du nom de la famille.
Touillet. Nom de jeune fille de ma grand-mère.
Qui est d'ailleurs à l'écoute de cette émission, Lucette.
Lucette nous écoute.
Bonjour, Lucette nous écoute. Cette maison a été créée en 2022. Est-ce que j'ai intitulé cette émission « Le beau et le bon » Est-ce que ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre, que c'est meilleur quand c'est beau et que c'est même moins bon quand c'est moche, disons, Alexandre Gauthier?
L'un n'engage pas forcément l'autre, je pense, mais en tout cas, l'œil, donc le beau, doit mettre en appétit. En tout cas, il y a cette notion de séduction. En tout cas, il faut quand on s'apprête, quand même, c'est pour attirer l'œil ou en tous les cas essayer de plaire. Et je pense qu'en cuisine, c'est la même chose. Il faut avoir envie de mettre à la bouche, sinon ça va pas. Sinon, si on est une répulsion, ça va, on va pas y aller, on va pas manger.
Avant les papilles, c'est les yeux, c'est le visuel.
Exactement. Mais par contre, c'est pas parce que c'est rare, on va dire, quand c'est pas beau, c'est rarement bon, c'est pas vraiment vrai. Parce qu'on a des plats populaires qui sont plutôt des, quand ils sont cuits, des ragoûts, des choses comme ça, d'un seul coup, c'est généreux et pas forcément d'une grande esthétique, mais ça peut être délicieux aussi. Après, bon voilà, c'est un entre-deux. Je pense oui. Mais malgré tout, les deux n'engagent pas, l'un n'engage pas l'autre tout le temps.
Oui, vous parlez de plats populaires. C'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas un signe extérieur de richesse, cette histoire du beau et du bon, voire même de snobisme.
Oh, je pense pas. Je pense que c'est à un moment donné, quand on décide de se nourrir, il y a des moments pour tout et qu'il y a des moments où justement, un mot difficile, mais l'art, en fin de compte, le fait d'emmener plus loin une activité de la hisser plus haut. On parle de haute cuisine, en tout cas chez nous. Et cette haute cuisine fait qu'à un moment donné, on doit tout prendre en compte et l'art de la table, en fait exactement partie.
Justine Prévost.
Ouais, je suis complètement d'accord. L'art de la table, pour moi, ça fait partie du décorum, en fait, de l'expérience qu'on a dans un restaurant. On a l'ambiance, le serveur qui nous fait des sourires, mais on a aussi la belle nappe, la belle assiette, le pose-couteau. Et tout ça fait partie un peu de l'expérience culinaire dans un restaurant. Donc oui, c'est
pas superfétatoire. pour le dire autrement.
Non, mais ça peut l'être aussi. C'est toute la nuance, c'est que le bon goût, il est à cet endroit-là. C'est qu'à un moment donné, on peut être dans le postiche, dans le factice, on peut être dans tout ça, et que malgré tout, il faut être juste au bon endroit, et finalement créer des lieux qui soient singuliers, pour que la cuisine du chef ou de la chef s'exprime au mieux, et finalement sans prendre le dessus, ou sans oublier quel est le travail de l'artisan. Par contre, c'est la main qui est derrière tout ça, je trouve. C'est la main du cuisinier, la main de la cuisinière, et de l'artisan, de tous les artisans, finalement. On concentre comme un entonnoir dans les restaurants des multitudes de métiers, dont la main et la réflexion, finalement, sont le sens.
Justine Prévost, qu'est-ce que la matière apporte ou retranche à un plat? Autrement dit, est-ce qu'on sent différemment, ou est-ce qu'on goûte même différemment un plat selon qu'il est dans de la poterie, dans du bois, dans de la faïence?
Mais c'est la matière, elle fait partie de justement de l'expérience gustative. Et du coup, quand on goûte un plat dans un plat émaillé ou un plat non émaillé, c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience comme une cuillère en argent ou une cuillère en bois. On n'a pas le même aspect sur les papilles de la langue. Donc oui, c'est la matière, elle fait partie du goût global du plat. Donc oui, c'est hyper important.
Alexandre Autier, vous êtes un des pionniers à avoir mis de la terre sur la table dans un restaurant gastronomique. C'est sans doute peut-être là l'affirmation d'un geste paysan, vous allez nous le dire. En tout cas, comment c'était avant?
Il y a longtemps, c'était déjà ça. Je suis pas sûr d'être le précurseur parce que quand même, la terre, c'est quand même l'origine. On est revenu, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où d'un seul coup, les grandes firmes de vaisselle françaises, même étrangères, avec une volonté de conquête du monde, finalement, avaient développé. Était vendre sa gamme partout, donc quand on mange à la Grenouillère ou à l'autre bout du monde, on se retrouvait avec des vaisselles identiques. Alors que notre travail de cuisinier, c'est de trouver une singularité d'un produit par tous les producteurs que nous avons, les éleveurs, les maraîchers. Et finalement, au niveau de l'art de la table, tout était catalogué. On achetait sur catalogue des choses. Donc il y avait un contresens qui était terrible. Voilà, c'était l'analyse il y a 14 ans quand on a reconstruit la Grenouillère avec Patrick Bouchain, se dire mais il faut être dans le juste et dans le vrai, et qu'à un moment donné moi je m'y retrouvais pas, et que finalement aller manger, prendre l'avion et manger dans la même assiette que celle que j'avais à la Grenouillère, il y avait soit l'endroit où j'avais mangé, soit mon restaurant était hors sujet. J'ai considéré que c'était moi qui était hors sujet, et on a commencé à travailler avec différents céramistes, parce que j'ai eu Cil aujourd'hui, mais j'ai eu Jean Lautré en premier au tout démarrage.
Bénédicte Bortoli, vous avez fait ce livre donc Céramique, le beau, le rare et l'utile. C'est parce que vous constatez qu'il y a un nouvel engouement pour la céramique?
Oui, ça c'est indéniable. Alors en effet, Alexandre n'est pas le premier, mais je pense qu'il a été dans les précurseurs.
Des pionniers.
Voilà, un des pionniers.
Pas dit le premier.
À ce niveau de gastronomie. Je voulais aussi rebondir sur le fait que autant le bon, on considère que c'est un parti pris un peu évident et attendu dans un restaurant. Le beau est un vrai parti pris. Et peut-être aussi une contrainte. Voilà, on est vraiment sur des bases assez solides dans un restaurant quand vous choisissez. Alors, on caricature en disant de mettre la terre sur la table, mais en tout cas, alors cher Alexandre, d'avoir une table en cuir, de mettre du feu, tout ceci et d'avoir de belles choses, c'est-à-dire auxquelles il faut apporter du soin, c'est un vrai parti pris. Voilà, c'est donc en effet les chefs de manière générale, enfin la plupart, vont dans cette voie d'aller vers du beau singulier, ce qui pour moi est le signe d'un grand restaurant, la singularité. C'est-à-dire que vous n'allez pas le goût des choses dit votre comme à la maison en fait, hein, dit qui vous êtes. Donc
oui, c'est ça. Ça participe voilà. De la signature d'une cuisine.
Exactement.
Vous
c'est une personnalité,
comme ça, Alexandre Gauthier.
C'est évident parce que c'est un tout, et finalement. Quand les gens viennent la manger, mais comme on le disait tout à l'heure, ils mangent avec les yeux en premier. Et finalement, aujourd'hui, c'est l'image qui circule et pas le goût. On peut l'imaginer que par l'image, mais on ne l'aura jamais si on ne vient pas la goûter. Et donc finalement, c'est un ensemble. Donc cette table, la salle du restaurant, la table en cuir,
c'est une expérience globale. Ouais.
Voilà.
Et Bénédicte Bortoli, j'essayais d'opposer faïence,
oui.
Porcelaine, grès. Alors bon, tout ça c'est de la céramique, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée de la différence. Mais ce qu'on apprend, notamment dans votre ouvrage, puisque vous faites une petite histoire de la céramique, c'est que au XVIIIe siècle, par exemple, le comble du luxe et du raffinement, c'est la porcelaine. Ça n'est pas le grès.
Oui. Alors, toute l'histoire de la céramique, alors j'ai fait une petite histoire que je dis lacunaire, parcellaire, parce que je ne suis pas historienne, mais de la céramique utilitaire en France, à table. Enfin voilà, donc c'est vraiment pas le petit bout de la lorgnette. Mais on a, il y a eu des tendances tout au long de l'histoire de la céramique qui se sont croisées avec un artisanat qui est parfois artisanat, qui est parfois art, comme en cuisine d'ailleurs, qui a absorbé toutes les tendances artistiques. On l'a fait aussi avec ce qu'on avait, c'est-à-dire que, par exemple, en France, les premiers gisements de kaolin, je crois que c'est au XVIIIe siècle. Donc, de toute façon, avant, on n'en avait pas. On a essayé de copier ce que faisait la Chine pendant des années. C'était des recettes très, très cachées, très secrètes, qui se monnayaient très, très cher. Je crois que quand les espions se faisaient prendre, ça leur coûtait assez cher. Donc, voilà. Et après, on a aimé, au fil des siècles, des choses très différentes. Le comble du chic, ça a été, en effet, la porcelaine pour ce côté immaculé qu'on a trouvé dans les grands restaurants en France.
Très longtemps.
Très longtemps. Et en effet, pour caricaturer, on est passé d'une porcelaine blanche immaculée aujourd'hui à une tendance qui irait vers le grès chamoté avec une texture qui apporte, hein, c'est ce que disait aussi Justine sur ce que ça change à table. Donc, déjà, c'est pas le même bruit quand vous frottez votre cuillère contre une assiette en grès. C'est pas la même chose. Ça peut changer le goût aussi. La porosité d'un contenant peut changer voilà, le goût. Et après, on n'a rien inventé en Occident, mais on en vient à ce que l'Orient a développé depuis des années, surtout au Japon, c'est ce rapport contenant-contenu qui ne devient qu'un seul et une attention apportée aux détails, qu'on n'avait pas nécessairement, même dans ce qu'on appelait la haute cuisine, la grande gastronomie, comme on veut l'appeler. Mais c'était assez standardisé parce que c'était nappe blanche ou nappe saumon, assiette blanche. Et ce qui comptait, c'était la technicité du chef. Bon, je caricature peut-être Alexandre, mais il y avait un peu de ça. Voilà. Et là, on sent la personnalité de quelqu'un.
Alexandre Gauthier, vous disiez que vous travaillez aujourd'hui avec Syl, la céramiste Sylvie Impens, pour donner son nom entier, mais elle travaille sous le nom de Syl. Longtemps, vous avez travaillé avec Jean Lautret, qui est céramiste à Manosque. En l'occurrence, avec Syl, je crois qu'entre vous, tout a commencé par une tasse.
Oui, en fin de compte, quand Syl est venu se présenter, parce que on croit sourcer nous chez nous, puis des fois il y a des gens qui restent cachés, donc là j'ai la chance que c'est elle qui est venue nous voir, et Syl est venue avec finalement une tasse à café. C'est la seule chose que finalement je n'arrivais pas à amener que la main, en fin de compte, qui était restée mécanique dans le restaurant. Ça a duré un an ou deux, tout de suite après la nouvelle grenouillère. Et donc, Syl est arrivé, et j'ai dit, banco, on y va tout de suite. Et au fur et à mesure, la conversation, sa proximité, les échanges fluides, et en même temps, dans une conversation, c'est-à-dire que c'était pas, il n'y a pas un ordre de ma part qu'elle exécute. Au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment en conversation entre elle et moi. Et une partie de mon équipe, d'ailleurs, aussi, parfois, et fait qu'on arrive, on aboutit. Et donc, moi, j'avais besoin que le contenant, j'avais envie d'une tâche de lait, presque, dans lequel on puisse se dresser mes plats, pour que la lumière et les couleurs puissent exploser. Et s'il a réussi à apporter ça à la grenouillère et à faire que, aujourd'hui, dans différentes formes, donc elle fait du moulage, hein, s'il elle fait, et c'est très compliqué d'avoir, justement, un geste presque répétitif qui n'est finalement jamais le même. Et en même temps, créer des collections au fur et à mesure, une ligne qui permettra à faire qu'un plat vive 3 semaines, 1 mois avant d'être renouvelé.
Dans ce dialogue entre la potière et le cuisinier, qui est le vôtre, Alexandre Gauthier avec Syl, vous dites dans le livre de Bénédicte Bortoli, le support doit être assez fort pour avoir une identité par lui-même et assez humble pour disparaître et laisser la place à ceux qui l'accueillent. C'est très beau ça. Est-ce que pour ça, on voit bien, et quand on goûte la cuisine, on pense autrement choses.
C'est toute la nuance qui est pas toujours, parce que je considère que Syl, elle est plus qu'un artisan finalement. Elle est artiste. Et donc, quand il y a deux artistes, attention, ou la cuisinier, pas forcément, je fais attention à ce que je dis, mais c'est un peu, ça peut s'affronter. Finalement, l'un veut exister plus que l'autre, et ça marche pas. Et donc, finalement, là, ce que je trouvais, ce qui est assez fort, c'est qu'on finalement, on est tous les deux au même endroit, et que son travail existe au même titre que le mien. Alors, évidemment, c'est différent, mais il y a pas d'amertume. Et donc, au contraire, c'est une complicité sincère qui fait qu'à un moment donné, on parle d'une expérience, et que le travail, c'est la table avant tout, et c'est pas que l'un existe sur cette table plus que l'autre, au contraire.
Mais Syl peut faire des nouvelles créations en fonction de vos créations de plats. Comment ça se passe, dans quel ordre?
Oui, elle nous fait des propositions. Elle nous fait des propositions qui fonctionnent parfois parce qu'elle vient et qu'elle imagine des choses quand elle vient à table après. Mais moi, j'ai envie de. Des fois, on a les créations, je les ai pas tout de suite. Ce que je veux, c'est qu'on démarre une forme et finalement, c'est cette forme qui, moi, par cette contrainte, qui va me donner. C'est un nouveau jeu. J'ai un nouveau contenant. C'est un nouvel outil, un nouveau jeu. Je ne sais pas jouer et d'un seul coup, on va l'utiliser d'une façon ou d'une autre on va le garnir, le remplir. Et ça, c'est d'un seul coup, ça nous inspire finalement.
L'assiette est un objet ridicule, fragile, encombrant et démodé. Je sais, on dira que le problème a déjà passionné les professionnels et qu'ils ont mis à notre disposition, par exemple, des assiettes en matière plastique. Ah, bien sûr, elles sont incassables, mais il faut tout de même les laver. On pourrait sans doute remettre à l'honneur l'écuelle du Moyen-Âge taillée à même dans le bois de la table.
Oui, mais il faudrait laver, vous comprenez.
Mais enfin, quoi bon revenir en arrière?
Non, la solution était ailleurs et elle a été trouvée par quelqu'un bien connu dans d'autres spécialités, par Madame Louise de Villemorin. L'assiette de Madame de Villemorin ne laisse aucune trace. Elle ne demande pas à être lavée, elle est comestible.
L'assiette comestible, Pierre Tchernia, vous aurez peut-être reconnu, Jacques Grelot, Robert Rocca, c'était la cuisine de l'an 2000, un sketch diffusé dans l'émission La boîte à sel sur l'ERTF en 1957. Nous, dans Les Bonnes Choses aujourd'hui, nous parlons du beau et du bon avec nos trois invités, Justine Pruvot, fondatrice de Touillet, dont nous allons parler dans un instant, et chef, dans l'autre sens, ça marche aussi, Bénédicte Bortoli, qui a écrit Céramique, le beau, le rare et l'utile, et le chef doublement étoilé de la Grenouillère, notamment Alexandre Gauthier, qui a fait le voyage jusqu'à nous. Justement, Justine Pruvot, on entendait là de la vaisselle jetable. Est-ce que l'idée de la maison Touillet, puisque je l'appelle la maison, c'est quelque chose d'assez familial finalement, est-ce que l'idée de la maison Touillet, c'est aussi quelque chose qui est basé sur une éthique ou une conscience écologique, de faire appel à de la vaisselle d'artisan, justement éviter les standards dans l'assiette, comme le disait à l'instant Alexandre Gauthier?
C'est tout à fait ça. C'est une envie de remettre en avant l'artisanat français et de collaborer, d'avoir ce dialogue, comme le disait Alexandre tout à l'heure, ce dialogue avec ces céramistes, ces artisans qui ont un savoir-faire exceptionnel et qui, moi, me nourrit aussi dans ma cuisine. Et c'est véritablement un besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de noble, on va dire, comme le fait de nourrir quelqu'un. C'est quelque chose d'assez noble d'avoir ce talent de faire plaisir en faisant à manger à quelqu'un. Bah, c'est pareil pour moi, je trouve que ça fait plaisir de manger dans une assiette qui a été créée et modelée à la main. C'est quand même assez exceptionnel.
Bénédicte Bortoli, ce retour à la céramique, pour le dire comme ça, en l'englobant généralement, cet engouement dont vous parlez, des chefs et des artisans dans un dialogue sans cesse renouvelé, c'est aussi que la céramique, elle est durable à l'heure où on doit bannir le plastique. Elle est quand même assez polluante, non, la céramique?
Alors, c'est en effet aussi un choix en engagement de choisir ces matières-là. C'est un artisanat qui est très énergivore, en effet, ce qui explique aussi le coût de la céramique. Voilà, parce qu'on est toujours obligé aussi un peu de l'expliquer et de faire la différence entre ce que vous pouvez trouver dans des grandes chaînes à petit prix et puis ce que produisent des artisans. Il y a une question de temps et puis il y a tout ce que coûte l'énergie de votre four. Donc voilà, on essaye en effet de contrebalancer ça en faisant du durable. Après, dans une option, en prenant le contre-pied, par exemple Frédéric Beau, qui est le directeur de création de Valrhona, qui est aussi pâtissier, lui, il a créé une poterie qu'il a baptisée, un peu par clin d'œil, mais positive obsolescence programmée, POP. Voilà. Et lui, alors, pour le coup, c'est tout l'inverse de ce qu'on a du discours qu'on entend sur la durabilité. Il crée des assiettes qui après pourront être recyclées. Donc ça veut dire peu de vernis, enfin peu d'émaillage, et puis une terre qui pourra après être recyclée. Donc ça, c'est encore une autre optique. Sinon, on fait avec cet artisanat extrêmement énergivore.
Vous parlez de faire, précisément, faire avec. Vous évoquez aussi la réflexion du groupe Faire. Oui. Comme le verbe faire, fabrique, argile, initiative, recherche ensemble, qui est menée par 6 femmes céramistes, précisément sur la durabilité de la céramique.
Voilà, c'est-à-dire penser son artisanat, ça c'est le propre de tous les artisanats, c'est ne pas mettre en cuisson, et beaucoup de céramistes le font de plus en plus, c'est ne pas mettre en cuisson des pièces que l'on ne pense pas aptes enfin qui n'ont pas la qualité pour être cuites. Donc ça veut dire réfléchir son geste. C'est un peu comme un cuisinier qui ne va pas non plus tout travailler, tout cuire dans n'importe quel sens. Toujours dans cette optique-là, choisir ses terres. Alors c'est plus facile forcément. Alors je fais un peu j'oppose le potier des villes et le potier des champs dans le livre, parce que les pratiques ne sont pas du tout les mêmes quand vous êtes en ville et quand vous êtes dans une région où, comme Judith Lasserie que je cite, n'a qu'à aller dans son jardin récolter sa terre. Donc c'est pas le même métier, mais c'est aussi comme un chef sourcer ses produits, choisir des terres françaises, voire locales, choisir des ingrédients qui sont le moins polluants possible. Tout ceci se réfléchit et c'est en effet ce que fait faire.
Et c'est aussi ce que vous faites, Justine Pruvot, en allant chercher des céramistes, en allant chercher des ébénistes différentes d'ailleurs souvent, parce que ce sont des femmes avec lesquelles vous travaillez. Vous nous expliquez comment vous travaillez avec... C'est pas vous qui fabriquez ou vous êtes chef?
Exactement, vous c'est vraiment une collaboration et une réflexion, un dialogue avec ces artisans. Et c'est vraiment les rencontres qui font que je travaille avec tel ou tel artisan. Lou Thomas et Amandine Gachet sont les premières céramistes avec lesquelles j'ai collaboré pour créer la première collection qui s'appelle Les Potières. Ensemble, on a travaillé et réfléchi au contenant pour le plat que j'avais en tête. Et ça a été beaucoup, beaucoup d'allers-retours, de problèmes aussi techniques parfois. Il y a le plat d'Amandine gâché sur le plat à pot-au-feu qui se fait en trois parties. Et elle tourne à la main, donc il fallait que les trois pièces s'emboîtent parfaitement. Donc c'était vraiment quelque chose de très technique et où elle a passé énormément d'heures pour arriver à cette finalité. Et c'est ça qui est hyper beau, je trouve, dans ces collections, c'est que on a véritablement un échange de compétences. En fait, moi, j'ai appris beaucoup de choses à leur côté, que voilà, il y avait tant de jours de séchage, que il fallait faire attention quand on mettait au four, parce que si c'était pas assez sec, ça pouvait exploser. Des choses dont je n'avais aucune idée et qui faisaient aussi partie, de la découverte et de touiller. En fait. Et pareil pour Léa Laborie, avec laquelle j'ai travaillé sur une collection qui s'appelle Les Menuisières. On a créé notamment des cuillères à amuse-bouche. C'est pareil, le choix de tel ou tel bois, du frêne ou pas, pour justement savoir comment ça allait se gérer sur la langue et les papilles, c'est aussi quelque chose qui a été discuté. Donc c'est vraiment un dialogue avec ces femmes-là, en l'occurrence.
C'est toujours le contenant qui est défini par le plat chez vous, pour réagir à ce que disait tout à l'heure Alexandre?
Moi, j'ai une idée de plat et ensuite je vais voir ces artisans et on discute de la manière dont il serait le mieux, comment on va le créer, ce plat. Mais j'ai toujours en tête la recette et ce que j'ai envie de montrer dans l'assiette ou dans le contenant.
Et parfois, il arrive aux artisans avec lesquels vous collaborez qu'elles vous proposent un contenant et que le plat s'adapte à ce contenant, ou c'est jamais dans ce sens-là?
Ça n'a jamais été dans ce sens-là. À chaque fois, c'est moi qui ai une envie et on a ce travail de collaboration, notamment avec le plat de Lou Thomas qui s'appelle l'assiette papier découpé, où là on a eu envie toutes les deux. Moi, j'avais envie de travailler les soupes et elle avait envie de mettre en avant, de rendre hommage à Henri Matisse avec les spirales qui l'utilise souvent en dessin. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, on va pouvoir mettre deux soupes différentes dans ce plat. Et du coup, ça va être en spirale et voilà. Et c'est généralement, c'est vraiment une collaboration avec l'artisan.
Il y a une phrase que vous avez notée, je crois, Justine Pruvot, et qui vous a notamment inspiré au début cette maison dédiée aux arts de la table. C'est une phrase que vous avez tirée dans un livre. Cette phrase dit: manger amer au printemps, vinaigré l'été, piquant l'automne et gras l'hiver. Ça s'adapte aussi bien au contenu qu'au contenant. En l'occurrence, il y a une saisonnalité de la cuisine et donc une saisonnalité des assiettes.
Oui, j'adore cette citation et c'est typiquement japonais. En fait, on suit les saisons et c'est exactement ce que je fais dans mon travail chez Mercato, c'est que je suis la saisonnalité des légumes des producteurs avec lesquels je travaille. Et pour moi, je trouve que c'est pareil pour la création d'art de la table. C'est on suit les saisons, on suit les plats de saison et on s'adapte.
Vous êtes d'accord, Alexandre Gauthier, vous aussi?
Les Japonais ont des centaines d'années d'avance sur nous là-dessus. Ils ont vraiment des contenants qui ne sont dédiés qu'à une journée dans l'année. Parce qu'il y a un haïku qui correspond à telle journée. et par rapport à la météo et à la saison, et le plat correspond à la, comment, au contenant, et il sera mis là qu'une seule journée. Donc non, c'est magnifique. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, qui est le mot vibration, et que je pense que c'est quand même, c'est que tous ces contenants ont une vibration qui sont folles, parce que qu'on mange dedans, qu'on puisse les toucher avec les mains, c'est pas toujours facile justement d'avoir justement un couvert qui vienne racler des fois. Les bruits sont stridents, peuvent être. Mais malgré tout, il faut quand même, c'est les vibrations de la terre et de la main, elles marchent beaucoup plus que quand c'est mécanique. Ça, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est quelque chose d'assez évident et qui sont. C'est un plus que d'un seul coup qu'on reçoit, qu'on soit le cuisinier ou le client ou le dégustateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous revient, qui est une énergie.
C'est presque de la sensualité au final.
Entre sensorialité et sensualité, ouais. Il y a toujours cet aller-retour.
C'est pas éteint, c'est pas plat. C'est quelque chose qui on sent, voilà. Et vu que c'est quelque chose, c'est utile, c'est quelque chose qui a une durée de vie et qui bouge en permanence quand même. C'est quelque chose qui a une, cette assiette va vivre, elle va cuire différents plats, elle va être utilisée par différents clients. Et finalement, elle peut, on parlait de durabilité, mais je pense que c'est assez, moi j'ai réussi à mettre ça en place, mais c'est qu'en fin de compte, l'assiette, quand elle est bréchée, d'habitude, on la jette. Et finalement, elle peut aussi repartir à l'atelier d'origine pour être limée et réémaillée.
Oui, s'il parle d'un petit hôpital, chez elle porte du soin à ses assiettes qui reviennent et qu'elle les regarde,
on la répare pour ne pas
exactement.
La jeter.
Non, elle revient au restaurant, elle reprend un autre cycle jusqu'à ce qu'à un moment donné elle soit trop usée ou plus présentable. Mais c'est assez rare. Malgré tout, c'est quand même, on n'est pas dans un consumérisme, on n'est pas dans justement quelque chose comme ça. On est quelque chose et une sorte de sensation vis-à-vis de l'équipe, parce qu'on de salle et de Gary qui est notre plongeur, qui est le monsieur qui nous fait la vaisselle. Et d'un seul coup, il fait entre chaque assiette, on met un linge, il y a quelque chose, il y a un soin vraiment apporté, une délicatesse.
Et puis j'aime bien cette idée qu'en hiver, on veut des supports au toucher épais, aux couleurs sombres, pour accompagner des plats de texture plus enrobant, plus chaud, et puis qu'en été, c'est aussi plus léger, donc même si c'est toujours blanc, la plupart du temps chez Alexandre, c'est blanc. C'est pas toujours blanc, en l'occurrence, avec Justine Pruvot. Alors il faut préciser quand même pour Justine Pruvot que vous vendez à des particuliers comme à des chefs, et que chaque pièce achetée est accompagnée d'une recette qui va avec. Par exemple, vous avez évoqué les cuillères à amuse-bouche sucrée, et ben vous les accompagnez d'une panna cotta infusée à la camille avec la recette qui va avec.
À la camomille, ouais, exactement. Mais en fait, c'est aussi pour montrer la réflexion derrière en fait la création de cet objet. Donc j'offre à la personne qui achète le plat, l'objet derrière de la table, une recette, mais bien évidemment, c'est à être repris, et comme dans une recette, dans un livre de recettes, parfois on change l'ingrédient parce qu'on l'a plus dans notre cuisine, et c'est un peu pareil avec les recettes que je propose pour Touillet.
Et on trouve évidemment ces recettes, tous ces ingrédients, toutes les collections, la collection potier-potière, la collection menuisier-menuisière,
le petit déj avec
le petit déj, et bientôt le pique-nique.
Exactement.
Au printemps 2024, oui. Sur le site de Touillet. Un grand merci, Justine Pruvot.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci à vous, Bénédicte Bortoli.
Merci.
Céramique, le beau, le rare et l'utile, c'est chez EPA. On y trouve 20 portraits de céramistes et un dialogue entre Alexandre Gauthier, ici présent, et Cille, la céramiste avec laquelle vous travaillez. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui également, Alexandre Gauthier. La Grenouillère, c'est à la Madeleine sous Montreuil. Ça rouvrira au printemps. Il faudra y aller absolument. Sur mer, c'est à Merlimont. Les trois autres sont à Montreuil-sur-Mer. Merci beaucoup à tous les trois. Les bonnes choses s'écoutent aussi, bien évidemment, quand vous le voulez, sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec Siam Boutata à la documentation, Colin Gruel aujourd'hui à la réalisation et Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.